Bonsoir et bienvenue. Merci Pablo d'avoir accepté notre invitation pour présenter de tes deux petites mains un livre écrit à quatre mains avec Nathan Obadia. Donc c'est un livre écrit à la troisième, à la première, pardon, personne du pluriel, ce qui rend le texte assez, à la fois très dynamique et agréable. C'est assez rare dans les essais d'avoir des adresses avec un nous, et ça en rend la teneur assez savoureuse. Tu compléteras mon propos bien sûr, mais si j'ai bien fait mes recherches, c'est le fruit de 3 ans de travail, de recherche et d'exploration, né de votre envie commune à Nathan et toi, et d'un besoin de comprendre ce qu'est la peur. Vous avez partagé ce constat que vous étiez traversé, mais bloqué par des peurs auxquelles vous étiez respectivement confronté et dans lesquelles vous revenez dans le bouquin. En introduction aussi, je veux dire que c'est un écrit qui est assez drôle, dans un langage parlé qui est très accessible, avec des adresses régulières aux lecteurs et lectrices, qui crée une expérience de lecture très dynamique. Et ça aide dans le propos, parce qu'il y a aussi certaines parties du livre qu'on va aborder qui sont un peu remuantes. C'est un livre enfin qui propose une réflexion et des solutions, avec un rappel permanent au fait que ce livre n'est pas un guide de thérapie, mais bien une invitation à explorer la relation corps, cœur et pensée pour alimenter le collectif. Pour préparer cette introduction, je me suis basée sur la couverture, qui est bien de dire « Apprivoiser nos peurs pour traverser ce siècle » et que c'est un livre de développement collectif. Enfin, il me semble avoir compris, et tu me corrigeras, que c'est un livre qui est, au-delà de ta rencontre avec Nathan, c'est aussi dans la continuité de la réception de ton travail précédent, notamment sur le livre « Comment tout peut s'effondrer », où tu as, au cours des années qui ont suivi, recueilli différents témoignages qui étaient à l'opposé, c'est-à-dire que certaines personnes t'ont dit que ce livre les avait complètement figés et bloqués, et d'autres au contraire que ça les avait secoués, et que c'est ce point de départ et la rencontre qui ont généré ce livre. Et ma conclusion à moi, avant de te laisser la parole, c'était de dire en gros, tu as été un surrogat incompris. Mais en tant que lanceur d'alerte,
je vais réfléchir à ça.
On pourra y revenir, puisque pour l'instant vous ne connaissez pas le surrogat. Donc la première partie du livre rappelle que la peur est une émotion, que les émotions ne sont ni négatives ni positives, qu'elles sont juste le signe qu'il y a quelque chose à changer. Et pour ce faire, et maintenant je te laisse la parole, vous avez utilisé la métaphore du surrogat. Bonne chance.
Bonsoir. Bonsoir. Ravi d'être là pour vous présenter ce nouveau livre. On était très excités avec Nathan de le faire là pendant 3 ans. Nathan est venu vivre à Die en fait, enfin même chez moi à côté pendant 2-3 mois. Puis après il a vécu quelques mois à Die et le deal avec lui, c'était qu'il m'apprenne à faire des arts martiaux, Sistema, un peu Krav Maga, et revenir dans mon corps. Et lui, il est très dans le corps. Et moi, je lui apprenne à écrire un livre, parce qu'il avait plein d'idées super chouettes. Et il faisait du coaching, il faisait des arts martiaux, etc. Et il voulait graver ça dans un livre. Finalement, on s'est tellement bien entendu qu'on a, pendant 3 ans, et après il est parti vivre ailleurs, on a découvert plein de choses sur les peurs, les traumas, ça nous a passionnés et on est rentré. Enfin, moi j'ai commencé du coup une thérapie sur les traumas, sur mes traumas à moi, et j'ai plongé et on a découvert des choses incroyables qui marchaient sur le public. Donc, lui il a un public à lui parce qu'il est thérapeute et il fait du coaching et il fait des arts martiaux, il a des groupes, etc. Et moi en conférence, je me suis mis à parler des peurs et en fait les gens étaient comme ça. Et avec un effet waouh qu'on a ressenti lui et moi, qui fait que on s'est dit allez, on fait le livre ensemble. Et c'était pas prévu, moi j'avais d'autres projets et j'en ai toujours d'autres, en particulier le fameux tome 3 de collapsologie que tout le monde attend. Et donc ça c'est une sorte de prérequis pour continuer la collapso. Si on veut continuer à réfléchir et à ressentir les catastrophes de notre monde, il va falloir qu'on monte en compétence au niveau peur, sinon on n'y arrivera pas, on va tous s'autodétruire. Alors parmi vous, qui T'as vraiment, je posais la question. On va poser plusieurs questions. Qui a peur, c'est trop. Tout le monde a peur. Ouais, tout le monde a peur. Qui pense que les médias font trop peur? La moitié. Qui pense qu'ils font pas assez peur? Ah, pas beaucoup. 4. Un peu moins. Ouais. Qui pense qu'il faut avoir plus peur par rapport aux catastrophes qui arrivent? Un tiers de la salle. Et qui pense qu'il faut avoir moins peur? Personne, personne. Incroyable. Alors moi j'en ai une qui me fascine, je vais vous la poser et après j'explique pourquoi. Est-ce que vous avez besoin de la peur pour passer à l'action?
Moi,
ouais,
parce que je suis paresseux de nature et si j'ai pas un stimulant, je reste au lit.
Ok, bah pareil, moi si j'ai pas peur, je reste au lit à lire des bouquins. Voilà, je vous en ai acheté plein, j'en mets plein à lire. Il y a la pile des urgents, la pile des très urgents. Franchement, moi, c'est la peur qui me met en action et qui fait que j'ai envie d'aider les gens et de faire des choses pour mes enfants qui sont là, pour améliorer le monde.
Parfois.
Parfois.
Moi, ma réponse, c'est parfois.
Parfois, vous. Parfois, ouais. Parfois, l'action naît de la peur. Parfois pas, c'est ça? Parce qu'il peut y avoir de l'action qui n'est pas de la peur.
Il peut y avoir des peurs qui paralysent.
Exactement. Et donc, moi, c'est ce que tu disais, Thaïs, le paradoxe que... En 2015, on a écrit ce bouquin, là, c'est lequel? Comment tout peut s'effondrer, qui est une énorme peur. Peur globale, systémique, de la fin de notre monde, une sorte d'effondrement des sociétés, effondrement de la biosphère. Et les scientifiques parlent de possible extinction de l'espèce humaine et d'une majorité, un grand nombre d'espèces sur Terre. Voilà, c'est des possibilités, mais c'est trop énorme, c'est incommensurable pour nos petits corps, nos petits cœurs, nos petits esprits. Et donc, pour moi, ça m'a mis en action. Quand j'ai découvert ça, que les scientifiques bossaient là-dessus, j'ai fait « Waouh, mais c'est génial, vite !» Et nuit et jour, et j'y pensais, j'étais fasciné, obsédé, je compilais plein de données et j'avais envie juste de transmettre aux gens avec passion. Et j'ai besoin d'un énorme niveau de peur pour me mettre en action. Sinon, je m'en foutais, en fait, s'il n'y a pas de peur. Mais ça, c'est moi. Et j'ai découvert qu'il y a des gens, dès qu'ils ont peur, ils s'inhibent. Et d'autres gens, dès qu'ils ont peur, ils passaient à l'action. Donc, la moitié, je ne peux pas dire exactement combien, mais on a eu énormément de retours de gens qui nous disaient « Mais merci, enfin votre livre, il nous a donné la patate. » C'était une grosse baffe. Ça, c'est peut-être le retour qu'on a le plus eu. C'était une grosse claque. Et du coup, ils se sont mis en mouvement. Ils sont mis à lutter pour Extinction Rebellion, ils ont changé de job, ils ont arrêté leur, comment on appelle ça, les bullshit jobs, les jobs à la con. Ils ont rompu avec leurs copains ou copines, parce qu'en fait, c'est des... Ou ils ont trouvé un nouveau couple, parce qu'ils étaient dans des réunions de collapso, machin. Ils ont enfin dit la vérité à leurs parents, à leur patron, à je sais pas quoi. Et plein de gens se sont révélés, enfin, sont bougés, quoi. Ils ont laissé leur job d'informaticien. J'ai rien contre les informaticiens, pour faire du maraîchage ou je sais pas quoi. On a reçu 1000 témoignages là-dessus. Et d'autres qui nous disent « Mais arrête de faire peur, c'est pas possible parce que tu inhibes les gens, tu crées du désespoir, de l'inaction, de gnagnagna. » Ça, je comprenais pas. Moi, je suis pas du tout dans le désespoir. Et je dis « Bah non, c'est une alerte. Comment tu veux prévenir les gens sans faire peur ?» Imaginez, là, il y a un incendie. Je ne souhaite pas, mais ça peut arriver un jour. Où sont les extincteurs? Où sont les sorties de secours? Déjà. Non, mais vous invitez un collapso, donc il faut assurer déjà.
Je dirais où ils sont.
Détecteur de fumée. Bon, imaginez un incendie là. Les pompiers arrivent, ils pètent les vitres, les portes, ils vont. Hey! Si, ils font comme ça. Et vous n'allez pas leur dire écoutez, messieurs, vous me faites un peu peur, criez-moi fort, s'il vous plaît. Moi, je voudrais un récit positif avant de me bouger le cul. Ben non, on ne dit pas ça. On se bouge le cul. Parce qu'on a peur, et la peur, ça sert à bouger, à passer à l'action. Et c'est là qu'on arrive au suricate. Je vous le fais après le suricate. Je vais le faire en bien, avec des couleurs et tout. Mais il y a des gens, quand les pompiers arrivent en criant, avec le feu et tout ça, et le bruit de l'alarme, en fait, ils se figent. Et d'où le paradoxe, la peur, ça fige ou ça met en action? C'est ça qu'on a voulu découvrir. Et on a découvert une théorie géniale, enfin plusieurs, dont la théorie polyvagale. Qui en a entendu parler ? Ah, trop bien. Et on s'est inspiré de ça et d'autres pour résoudre ce paradoxe, enfin le résoudre, non, le dire au grand public de manière très simple. Parce qu'à chaque fois qu'on allait dans la théorie polyvagale, c'est compliqué, il y a des mots compliqués, les gens ils s'en foutent, on expliquait aux gens, au bout de 5 minutes, il y a des croches, ils n'ont pas envie. Et là, c'est clac, clac, boum, la métaphore du suricate, les trois couleurs, un compas, enfin une boussole, et c'est super simple. Du coup, ça permet de voir où on en est dans ce territoire des peurs et de voir où les autres en sont. Pourquoi la personne est comme ça, est figée ? J'ai dit un truc qui va pas ? Ou pourquoi la personne, elle se bouge ? Voilà. Et donc, c'était quoi ta question ?
Un suricate incompris.
Un suricate incompris. Moi, en fait, j'ai compris, mais très récemment, que j'avais besoin des peurs pour bouger. Et plus précisément, que j'étais polytraumatisé d'un accident que j'ai eu à 14 ans et de, à mon avis, d'autres choses avant de mon enfance, d'éducation et tout. Comme beaucoup de gens. Comme quasiment la majorité des gens, on est traumatisé, peut-être pas autant, mais et en fait, qu'on vit, quand on est traumatisé, je vous expliquerai le trauma après, là on se dissocie entre l'esprit et le corps, et le corps s'anesthésie, et alors on n'a plus accès à notre intériorité, on ne sait plus si on a peur, si on est triste, je sais pas. Moi, j'ai jamais su si j'étais en colère, triste, je sais pas. Quand on me disait t'es en colère ou pas, je sais pas. Et là, j'apprends, j'arrive à avoir accès à l'intériorité, à me réassocier. Donc, mon hypothèse, c'est que j'ai pu écrire ces horreurs parce que j'étais dissocié. Et j'ai pas compris que les gens qui n'étaient pas dissociés, ben, ils flippaient grave. Je savais pas. Mais en vrai, c'est pas ça le problème. Parce que les alertes, elles sont là. On va pas dire, non, mais scientifique, en fait... En fait, on a trop peur, donc ce que vous dites, on ne veut pas l'entendre, et ça ne va pas ce que vous dites, donc arrêtez de le dire. Mais non, on va continuer à les écouter, donc il faut arriver à se réassocier, mais à gagner en capacité d'avoir plus peur. Et là, je suis tombé sur le philosophe Günther Anders, délicieux. Philosophe, j'ai connu beaucoup trop tard, philosophe des catastrophes, partie de l'école de Francfort, des philosophes allemands qui ont fui le nazisme. C'était le copain, petit ami, je ne sais pas comment on dit, de Hannah Arendt pendant 12 ans. Et avec toute la bande à Walter Benjamin, tout ça, c'est des gens super, mais assez sombres. Et lui, c'est vraiment délicieusement pessimiste. Günther Anders, il a étudié les camps de concentration et Hiroshima, donc les horreurs du XXe siècle. Et bon, je déroulerai après Günther Anders, mais c'est génial. Et donc. Quoi dit ça? Merde, j'ai perdu le fil.
Capacité à avoir de plus en plus peur.
Voilà, ah oui, c'est ça, merci. Et Günther Anders, il dit, en fait, nous sommes des analphabètes de l'angoisse. On n'est pas du tout en train de vivre une époque où on a trop peur, mais au contraire, une époque où on n'a pas assez peur face aux catastrophes, à l'apocalypse qui arrive. Donc lui, il parlait de la possibilité d'apocalypse nucléaire qui est toujours là, des bombes atomiques, tout ça, et des camps de concentration qui peuvent, on l'a vu avec l'actualité, revenir assez vite. Enfin, peut-être pas des camps de concentration, mais des massacres. Et donc, allez, si je vous le dis rapidement, parce que je sens qu'on va pas y revenir, Günther Anders, son truc, c'est le décalage prométhéen. Son expression pour dire que quand la technique est beaucoup trop puissante, c'est-à-dire les bombes nucléaires, les centrales nucléaires, voilà, une technostructure monstrueuse avec des humains petits. Ils disent, nous sommes trop petits, c'est-à-dire spirituellement trop petits. Et par spirituellement, c'est quatre choses, la spiritualité, c'est l'activité de l'esprit, donc la raison, l'intuition, l'imagination et les émotions. On ne sait plus imaginer, on ne sait plus ressentir émotions, intuité, je sais pas comment on dit, et pensée. Alors pensée, on y arrive bien parce qu'on est focalisé, je dis la modernité, hein, focalisé là-dessus avec toutes les dérives scientistes et tout, mais en fait, on est assez nul nos cœurs sont trop petits et pas formés à l'intensité émotionnelle, et notre puissance intuitive, imaginative et réflexive, elle est vraiment pourrie, sans compter que politiquement c'est ridicule notre capacité à traiter les grosses crises. Et donc quand on a donc ça permet ce décalage prométhéen, c'est ça l'origine du mal, c'est que ça permet à monsieur et madame tout le monde de créer, de faire des massacres, de faire des horreurs. Et il était en correspondance avec le fils d'Eichmann, il a étudié ça à Günther Anders, et le pilote de l'Enola Gay, l'avion qui a largué la bombe sur Hiroshima. Ce mec-là, un mec normal, bon, qui a fait l'armée et tout, il a appuyé sur un bouton, il a tué 80 000 personnes en quelques secondes, et il allait à l'église, il embrassait ses enfants après, tout ça. Il a voulu comprendre ça, Anders. Comment quelqu'un de normal peut juste tuer 80 000 personnes? Et en fait, ça rentre pas. C'est pas concevable. Déjà, tuer une personne, c'est monstrueux. Il faut être psychopathe, faut avoir un entraînement d'années. Enfin, pour tuer quelqu'un, c'est très difficile. Les militaires s'entraînent. Et encore, sur le terrain, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à tuer, à viser. C'est vraiment très dur. Et lui, il arrive 80 000 personnes d'un coup. Parce qu'il a été dissocié. Voilà, et en fait, on est tous dissociés. Moi, pas seulement parce que j'ai eu l'accident, mais parce que j'ai fait des études d'ingénieur, pas beaucoup de sport, toujours aucune éducation émotionnelle, mais aucune, ni à la maison, ni à l'école, jamais. Qu'est-ce que tu ressens? Mais jamais. Au contraire, quand il y avait un truc qui montait, surtout, faut pas ressentir, faut pas exprimer la colère, faut pas pleurer, surtout les hommes, et puis ingénieur et tout ça. Donc, en fait, j'ai passé 30 ans, j'ai arrêté à 30 ans les études, sur les bancs de l'école, à être là, et à gober tout, sans ressentir, sans le corps, juste dissocié. Et j'ai réussi. Je suis devenu ingénieur, docteur, machin. On peut réussir dans cette société en étant dissocié. Et même, c'est un avantage. Parce que... et parce qu'en fait, du coup, cette technostructure qui est créée par des ingénieurs, des économistes, des spécialistes du management et tout ça, et gens, bon, j'ai rien contre eux, hein, moi je suis ingénieur et tout, mais et ils arrivent, ils font des choses. En fait, il faut être complètement dissocié pour concevoir une centrale nucléaire. Ils disent ça, ou un site Céveso, ou je sais pas quoi. Et après, il faut être dissocié pour pouvoir vivre à côté, même si on l'a pas créé. Et donc, c'est une société dissociée qui perpétue cette dissociation qui vient de Descartes, on pourrait dire, le pauvre, on l'accuse tout le temps, mais c'est nature-culture, dissociation corps-esprit, dissociation, toujours, tout est dissocié. Et on flotte, les humains, nos petits problèmes humains, sur un monde de non-humains, mais qu'on prend pour des objets, des ressources, et on fait ce qu'on veut avec, et on flotte. Et les Amérindiens, en Colombie, que je suis allé voir l'année dernière, je suis à moitié colombien, j'essaye de me réassocier aussi à ma famille, à mes liens, à mes racines. Et les chamans, ils disaient, mais en fait, vous, les blancs, qui nous appellent les petits frères, vous flottez là, vous êtes coupés du monde, vous êtes dénombrilés, desombligados, et vous faites n'importe quoi, parce que du coup, vous dialoguez plus avec la terre-mère, en fait, vous faites n'importe quoi. Et c'est exactement ça, dissocié, on ne ressent plus, du coup, on n'a plus les capacités de savoir qu'on fait n'importe quoi, et on fait, et voilà. Et avec une puissance technique monstrueuse, on appuie sur des boutons, en fait, tout le temps, et on massacre tout le monde, mais autour de nous. Mais sans le savoir. Et en plus, si on le sait, on le ressent pas. Bref. Donc l'idée, c'est de réduire ce décalage prométhéen, c'est-à-dire réduire la puissance technique. Et là, on a toute la littérature anti-technologie, donc de la décroissance, Mumford, Schumacher, Illich et compagnie. Mais c'est pas ça le sujet du livre. Le sujet du livre, c'est une pierre à l'édifice de l'alphabétisation émotionnelle. Comment on apprend à ressentir? Alors Raphaël Stevens, avec qui j'ai écrit, il est passionné par l'intuition. Et je lui ai dit, écris un livre sur l'intuition, on en a besoin, etc. Nous, on s'est fait critiquer à fond, là. On parle de l'intuition dans celui-là. Ouais. Et alors, tous les scientifiques nous sont tombés dessus. Mais comment vous pouvez dire ça? C'est la raison, c'est ça qui compte, c'est ça qui va sauver le monde. Mais en fait, non, on a besoin d'autre chose. Bon, bref. Suricate incompris. Je sais pas.
Par une partie.
Moi, déjà, moi, je comprenais pas mon suricate. et pas celui des autres. Mais là, je commence à comprendre. Et c'est ça que j'avais envie de partager avec vous. Je vous le fais sur ICAT ?
Oui.
Attends, c'est quoi ? C'est... Passe-moi le doigt. Je te le fais. Alors, le suricate, je vous en ai amené. C'est Nathan qui a trouvé la métaphore. Alors, le suricate, un petit animal d'Afrique du Sud qui vit dans le désert et qui vit en clan, merci, et en groupe, et qui poste des sentinelles pour scanner l'horizon et à 2-3 km à la ronde de toutes les dangers, les menaces, les prédateurs ou les autres suricates, parce qu'ils se font la guerre entre eux, entre clans. Et donc c'est vraiment le symbole de la sentinelle. Et nous, et quand il y a un danger, la sentinelle, elle aboie et elle prévient les autres du clan qui peuvent réagir. Et c'est hyper sensible. Tout de suite, c'est un animal qui ressent la peur et qui vibre la peur. Et alors qu'est-ce qu'ils font quand ils aboient et ils se mettent en peur, en mode adrénaline ?
Ils fuient.
Dans leur terrier.
Ils se cachent. Ouais, ils se cachent dans le terrier, donc ils fuient. Ou ils combattent. Fight, flight.
Freeze.
Et, merci les Anglais. T'as révisé. Freeze, c'est immobilisation. Et ils se figent. Donc là, on a déjà le paradoxe. Fight, flight, c'est fuir et combattre, c'est de l'action. Et freeze, c'est l'inhibition. Alors nous, ça c'est le suricate, l'animal. Et nous, on a pris cette métaphore pour désigner ici le système de neuroception, c'est-à-dire notre système nerveux, la partie de notre système nerveux qui détecte les dangers. Et donc à 80%, c'est dans le corps, et à 20%, c'est dans le cerveau, et cerveau primitif. Cerveau primitif, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lui parler. C'est-à-dire que le suricate, il ne parle pas le langage. Et quand on a peur, les mains moites, là, on était stressé de cette rencontre, on ne peut pas dire à une suricate, mais arrête d'avoir peur. Là, c'est trop facile, hein. Ça serait trop facile, on n'aurait jamais peur. Donc en fait, il parle le langage du corps, c'est le cerveau reptilien. Et moi, je n'ai pas l'habitude du corps. Moi, je ne sais pas, justement, avec tout ce que je vous ai raconté sur la dissociation, etc. Je ne sais pas respirer. Jusqu'à il y a 2-3 ans, je ne savais pas respirer. J'ai appris, dans une espèce, on doit payer des gens pour apprendre à respirer. Les lézards, ils doivent se foutre de notre gueule. Les bactéries aussi, d'ailleurs. Et donc, on a un suricate qui détecte en permanence tous les dangers. Les dangers, ils viennent... Attends, je vais le mettre là. Ils viennent d'où, les dangers ? Ça, c'est la boussole. Ok ? Ils viennent d'où, les dangers ? Je vous pose la question.
Extérieur,
ouais. À l'extérieur, il y a quoi ?
Les autres.
Les autres. Ah, les autres. Donc, quelqu'un arrive avec un visage agressif. Ou quelqu'un arrive derrière vous avec une intention mauvaise. Vous savez, le sixième sens. On sent comme ça. Ça vous est jamais arrivé, quoi. Si, on sent qu'il y a quelqu'un qui nous regarde. Et ça, c'est notre... En fait, le suricate... cerveau cognitif est plus rapide que le cerveau reptilien, donc on va l'appeler le cerveau de survie, il est plus rapide que le cerveau cognitif, cortex préfrontal. 40 millisecondes, il a déjà une réaction. Si une voiture ou un vélo arrive, déjà vous sursautez avant même de savoir que c'est un vélo ou une voiture. Donc il y a les autres, on va mettre ça comme ça. Ça c'est les liens avec les gens.
Le monde.
S'il y a une odeur de brûlé, un bruit d'explosion, je sais pas quoi, et à l'intérieur, ils scannent.
Les sensations.
Nos émotions, nos ressentis.
Ouais, le corps, on va dire. Donc, émotions, sensations, c'est plutôt le langage du corps. Donc, le corps, il nous dit, il y a un truc. Donc, c'est pas exactement émotion, mais c'est plutôt douleur. Vraiment, c'est hyper primitif. Et justement, c'est parce qu'il y a douleur que le suricate, il va balancer des émotions. L'émotion primaire, c'est la peur. On va l'appeler peur, mais on manque de mots, en fait. Qui vient du bas, et qui, en médecine chinoise, il traverse les organes. Ça vient du foyer inférieur, ça traverse les organes, et ça se déploie, suivant l'organe, en différentes émotions. et ça touche le mental qui va aller analyser en différentes sensations, sentiments. Donc l'énergie primaire, le foyer là, c'est le suricate qui déclenche. Pourquoi ? Parce qu'il y a un des cadrans qui n'est pas validé. Et l'autre, là, c'est les pensées. Genre, j'ai un examen la semaine prochaine, ah, j'ai pas révisé, fait chier, hop, les mains moites, direct. En fait, le suricate, il ne comprend pas la différence entre passé, présent, futur, et il ne parle pas le langage. C'est vraiment très primitif, comme les reptiles et tout. Donc lui, s'il y a un petit stress à ce niveau-là, en fait, c'est le gardien de nos liens. On peut considérer qu'on a des liens avec le monde, avec les autres, avec notre corps, avec les pensées. Et dès que les liens sont menacés, rompus, ou dès qu'il y a un truc qui ne va pas, dès qu'un besoin n'est plus satisfait, mon besoin d'amour, besoin de stabilité, de sécurité, besoin de sens, dès qu'il n'y a plus de sens au monde, consommer, pourquoi ? Ça n'a pas de sens en fait. Et dès qu'on a besoin de santé, ah, j'ai mal au ventre, ah, ma douleur se réveille, c'est peut-être un cancer, nanana. Donc là, on a douleur plus pensée, plus ça me rappelle, nanana, nanana. La suricate, il aboie en fait et il balance l'adrénaline. Pourquoi ? Pour qu'on réponde à notre besoin. Pour qu'on se bouge. C'est tout. Donc c'est là que c'est intéressant, et je ne sais pas si vous allez voir. Donc au début, c'est le monde du vert. Ça, c'est le suricate qui est bien. Tous les besoins sont satisfaits. Il n'y a pas de peur, pas d'adrénaline. C'est le monde du vert. Si le suricate balance l'alerte, il va monter dans le monde du rouge, qui est de l'action. Okay. Et là, il faut bouger. Adrénaline, pupille dilatée, les muscles dans le sang dans les muscles. On arrête la digestion et on bouge. Ça sert à fuir ou combattre. Donc, le message du suricate, lui, il est responsable de la survie, le suricate. Et il a toujours priorité. Ok ? Sur la pensée. Comme c'est une question de vie ou de mort pour lui à chaque fois, que ce soit un examen la semaine prochaine, un vélo qui arrive, une odeur de fumée, c'est vie ou mort. Et donc, il a priorité. Donc, il balance l'adrénaline pour que vous vous bougiez, pour changer le monde ou changer soi. Il faut bouger. Mais si tu restes comme ça, tu vas mourir. Vraiment, hein, mourir. C'est comme ça qu'il parle. Enfin, il parle pas, mais c'est ce qu'il ressent. Donc, le monde du rouge, c'est le monde de l'action. C'est le monde des problèmes et solutions. Les gens qui pensent problème-solution, ils sont dans le rouge. C'est le monde du café-clope, des échéances. C'est le monde de... Merde, j'ai un patron, il me fait ça, nanana, nanana. C'est le monde de l'action, en fait. C'est un monde où, alors que dans le vert, notre champ de vision pouvait s'élargir, on pouvait ressentir les choses, écouter les oiseaux, profiter de la vie, être dans la joie, être dans le lien, être dans les muscles, le nerf vagal ventral, c'est tous les nerfs qui sont impliqués dans l'engagement social. Ça, c'est le monde du vert, la joie, le lien, le sens. Dès qu'on rentre dans le rouge, si quelqu'un arrive devant vous avec un couteau, je l'ai vu, on s'entraîne avec Nathan, il m'a entraîné. Le suricate, déjà, il contracte la nuque. Quand vous avez des réflexes comme ça, le corps, il réagit. Et tout l'esprit et le regard est focalisé sur le couteau. Vous aurez vraiment du mal à savoir de quelle couleur sont les godasses du gars. Et s'il y a des oiseaux qui chantent, en fait, on n'en a plus rien à foutre. Le suricate, il dit couteau. Le champ de vision se recroqueville sur les problèmes. Donc imagine, vous lisez comment tout peut s'effondrer, vous passez dans le rouge, tout se concentre sur l'effondrement. Vidéo de Jean Covici, YouTube, tous les vidéos YouTube, tous les livres, voilà. Ça, c'est le monde du rouge, l'obsession. Passe en mode obsessionnel, il faut bouger. Et du coup, le lien est plus difficile. Ben oui, s'il y a quelqu'un, une menace, vous n'avez pas passé votre temps à faire du lien, être dans la joie et tout. Ça isole le monde du rouge. Si on reste coincé dans le rouge. En fait, c'est de l'énergie que le suricate vous donne pour résoudre les problèmes. Et idéalement, si le problème s'en va, vous revenez dans le vert. Ok ? Il faut revenir dans le vert. faut se mettre à respirer et revenir dans la joie, le sens, pour se recharger. Et la règle numéro 1 du suricate, c'est à chaque dépense d'énergie, il faut une récupération égale ou supérieure. Si vous ne récupérez pas, vous restez coincé dans le rouge. Et toute la vie dans le rouge, bah, ça traumatise. Ça dérègle le suricate. Et donc, j'accélère un peu. Si jamais le suricate, il s'en sort pas, genre le prédateur des vrais suricates est trop fort, ou il y a un danger trop grand, ou genre le bus qui m'a écrasé, c'était trop grand pour moi, et ben le suricate, il lâche l'affaire. Et il passe dans le monde du bleu. C'est l'inverse. Le monde du bleu, c'est surtout ne fais rien. C'est l'inaction. C'est si tu bouges, tu meurs. Les gens dans le bleu, on peut pas les faire bouger. Mais tu comprends pas, bouge, c'est vraiment le collapse, vraiment. Il y a vraiment un feu, bouge, il peut pas. C'est plus fort qu'eux, c'est verrouillé, quoi. Donc ça, pour comprendre, c'est la souris, elle vit une vie cool. Il y a un chat qui arrive, elle court partout, elle est dans le rouge, elle fuit, elle donne des coups de dents, elle essaye de griffer. Et le chat, à un moment, la chope entre les dents, et là, dissociation, elle dit bon, ok, son suricate à elle, donc le suricate de la souris, faut suivre, passe en bleu et dissocie. Pourquoi il dissocie? C'est un réflexe primitif pour
calmer le chat,
ouais, diminuer les réflexes du prédateur, mais surtout s'anesthésier pour supporter l'insupportable de manière temporaire. Donc, soit pour se faire manger, et toutes les proies font ça, pour se faire manger bien. Bah ouais, c'est plus agréable de rien sentir, en vrai. Et moi, je l'ai ressenti à mon accident, je sentais rien, j'avais pas de douleur. Un bus m'avait écrasé le bassin, triple fracture ouverte, j'étais sur la route pendant 1h30, j'ai rien senti. J'étais dans le bleu, total. Et voilà, notre corps, il est fait comme ça, et merci le suricate. Si j'avais commencé à être dans le rouge, à bouger et tout, ça l'aurait pas fait du tout. Du coup, la souris, elle est là dans la gueule du chat. Le chat, du coup, il s'en fout. Il se barre. La souris, elle est là. Et il faut voir les vidéos YouTube sur les antilopes et les lionnes et tout. C'est génial. Elle se met à trembler. Et au bout de 5 minutes, elle tremble un peu comme ça. Et après, c'est des grands mouvements. N'importe quoi. Ça se transpire. Alors, les humains, ils peuvent crier, être en colère, transpirer, pleurer, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, toute l'énergie, pour aller dans le bleu, il faut passer par le rouge. Et donc, toute l'énergie accumulée ici, elle se bloque dans le bleu. Autrement dit, le bleu, c'est une énergie encore plus forte qui vient encapsuler l'énergie du rouge. Le bleu, c'est pas un manque d'énergie. C'est une énergie très forte qui stoppe. C'est comme un frein à main avec un moteur à fond. Et du coup, pour sortir du bleu et revenir dans le vert, il faut passer par le rouge. Il faut libérer, donc on décapsule, et toute l'énergie sort. Et dans notre culture, on n'apprend pas ça. On dit non, mais calme-toi, pourquoi tu pleures, pourquoi tu cries, pourquoi tu te mets en colère. Et si on ne fait pas ça, si on ne libère pas cette énergie, et qu'on ne récupère pas dans le vert, et ben on reste bloqué là, dans le monde du bleu, ou bloqué dans le monde du rouge. Souvent, c'est un mélange des deux, on l'explique dans le bouquin. Et c'est ça le trauma. Le trauma, c'est pas d'aller dans le bleu. Le trauma, c'est de rester coincé dans le monde du bleu sans pouvoir libérer l'énergie. Donc le trauma, c'est une réaction de peur extrême, parce qu'on est dans le bleu, qui est encore en cours. Même 30 ans après, les soldats qui ont été au front, tout ça, le stress post-traumatique, tout ça, c'est une réaction qui est encore en cours. C'est votre suricate, il a un dossier ouvert, c'est toujours ouvert, il pense qu'il y a toujours un bus, qu'il y a toujours des soldats qui tirent dessus, etc. Et donc, ils ne sont pas redescendus. Et le but des thérapies trauma, c'est par le corps faire en sorte de terminer la réaction et donc de libérer l'énergie qui est encapsulée. Et ça marche la plupart du temps, sauf dans les traumas complexes, les traumas d'attachement qui ont lieu très jeune dans l'enfance, en fait, quand vous formez vos liens avec le monde. Si vous avez des liens insécures ou des parents violents ou qui ne comprennent pas les émotions, qui ne comprennent rien, etc., et ben, des liens toxiques, en fait vous allez grandir avec des liens toxiques et vous saurez plus ce que c'est des liens sécures. Ça s'appelle les traumas complexes, et là c'est assez difficile de s'en sortir. C'est possible, mais pas dans tous les cas. Mais les traumas d'accident et traumas événementiels, c'est assez facile de s'en sortir par le corps.
Et voilà le gros de, des trois couleurs de la boussole et du suricate.
Dans, dans la partie sur le suricate déréglé, tu vous parlais abondamment avec Nathan de comment il y a eu effectivement ce dérèglement émotionnel. Est-ce que ça coïncide, enfin, avec, en termes historiques, ça coïncide avec quelle partie de la modernité ? Tu parlais tout à l'heure des cartes. Vous avez pu retracer la partie historique à partir de quand il y a eu cette espèce de dissociation massive qui a fait que. Parce que ce qui est intéressant aussi dans votre approche, c'est, et à nouveau je reviens sur le collectif, vous parlez abondamment aussi de comment le capitalisme et les effets négatifs des sociétés actuelles vont pousser les gens à rester coincés dans le bleu. Mais ça, ça date de quand ? Puisque, ouais. Est-ce qu'on a tous été toujours traumatisés, nos arrière-grands-parents, nos arrière-arrière-grands-parents ? Ou est-ce que cette période, enfin, cet état de collectif, de peur collective immobilisante est lié à l'avènement de la période industrielle, enfin, sur l'aspect historique ?
C'était une intuition que j'ai vue. J'ai pas vu d'auteur, on n'a pas vu d'auteur qui parlait explicitement de ça. Beaucoup d'auteurs parlent de la dissociation nature-culture, Edgar Morin, Descola, tout ça, mais jamais en référence au trauma, en tout cas très peu. Moi, j'ai beaucoup aimé le philosophe Jean-Claude Michéa, qui analyse bien le libéralisme. Il explique, il explique bien en fait que le libéralisme, c'est né, Hobbes, tout ça, siècle des Lumières, c'est né d'une vision très négative de la nature humaine. En gros, suite aux guerres de religion qui ont vraiment détruit et traumatisé des générations entières jusqu'au siècle des Lumières, ça a été de dire, en gros, hop, c'est... En gros, les gars, on va pas s'en sortir si on base notre société sur les religions ou la morale. Il faut arrêter, sinon on va se massacrer. Donc on se base juste... Le libéralisme, c'est juste le plus petit dénominateur commun, c'est nos égoïsmes partagés. Tout le monde a un petit peu d'égoïsme. Juste matériel, et on va baser toute la société juste là-dessus. Calmez-vous, on se calme. Et c'est ça, la main invisible et tout ça, ça a été une fondation politique hyper pauvre, en fait. C'est nul, c'est l'homme unidimensionnel, c'est ridicule anthropologiquement parlant, c'est nul. Et c'est aussi une croyance que la nature humaine est mauvaise. Quoi qu'on fasse, on s'entretue, et qu'on a besoin de l'État fort pour créer de la coopération, de la civilisation, etc. Mais ça, c'est né de siècles de violence, de trauma, de dissociation. À mon avis, Descartes, tous ces grands philosophes étaient complètement dissociés. Ils ne ressentaient rien. Enfin, voilà, je pense que ça a été étudié par certains historiens, il faudrait creuser. Mais, il y a beaucoup à dire, hein, mais moi, en ce moment, je suis en train de lire Graeber et Wengrow, au commencement. C'est absolument génial, donc un gros livre, Lien qui libère, qui expose complètement cette vision du monde linéaire, un peu de sapiens, que avant il y avait les primitifs, puis l'invention de l'agriculture, enfin chasseur-cueilleur, invention de l'agriculture, le libéralisme, la science et les transhumanistes et tout ça. C'est complètement linéaire et c'est faux en fait. Il explique qu'il y a plein de sociétés qui ont un peu tout fait. Des grandes sociétés horizontales, des petites sociétés verticales, des grandes verticales, plein de choses. En fait, les humains ont passé leur temps à essayer plein de systèmes politiques divers en fonction de l'environnement. Et que les Amérindiens, quand les Blancs sont allés les massacrer en Amérique du Nord, là, ils avaient des sociétés beaucoup plus évoluées que les nôtres. Vous voyez le décalage prométhéen ? Eux, ils avaient une technologie très proche de la nature. Et en fait, spirituellement, ils étaient beaucoup plus grands que nous. Ils avaient une vision de la liberté, de l'égalité, de l'autonomie, de la responsabilité, mais mille fois plus intéressante que nous. Et ils ont vu des Blancs débarquer. Alors, les Blancs à l'époque, c'était autre chose. Hein. C'était les jésuites et tout. Eux, ils détestaient la liberté, c'est dans les textes. Non, mais... Et ils arrivent, ils massacrent tout le monde. Et en fait, les Amérindiens, ils disent, mais les Blancs, ils n'aiment pas la liberté, ils tuent tout le monde, ils sont déconnectés de la... En fait, ils ont vu des gens traumatisés par les guerres de religion arriver, massacrer tout le monde et rien ressentir, en fait. Et alors, c'est marrant, dans Wengrow et Graeber, ils racontent comment les prisonniers blancs qui sont chez les Amérindiens. En fait, ils trouvent ça génial et ils restent là. Et quand ils sont libérés, ils restent. Et alors que les prisonniers amérindiens, quand ils vont chez les Blancs, dès qu'ils ont l'occasion, ils se rebarrent chez eux. En fait, il y a une liberté sexuelle, liberté politique. Enfin, c'est des sociétés basées sur la responsabilité et l'autonomie. Alors que les Blancs, c'est basé sur le droit et juste l'obéissance. C'est archi nul. Donc nous, on a un peu évolué depuis. On est à mi-chemin, là. Pour moi, c'est encore beaucoup de travail à faire. Alors, j'ai une anecdote là-dessus, parce que j'étais, il y a 2 ans, invité à un grand colloque international de Collapso sur les risques systémiques, la polycrise. Donc, vous imaginez les plus grands spécialistes du collapse dans le monde, là, réunis dans une salle, il y avait 150 personnes. Donc, même moi, j'étais un des plus gentils et optimistes. Il y avait tous mes héros et toute ma bibliographie était là, c'était le rêve. Et à un moment, ils avaient invité des gens de la société civile, et des Amérindiens aussi, donc il y avait une grande leader, je sais pas comment on dit, amérindienne, qui était là en tenue et tout. Elle a fait un poème sur sa grand-mère et elle fait une thèse à Princeton et tout, mais elle était fort ancrée dans sa culture amérindienne et essayait de faire... Donc pour vous dire, elle appelait les États-Unis et le Canada Turtle Island. Et elle parlait en vous et nous, vous les Blancs, et c'était un peu étrange, mais bon. Et elle dit, nous on s'est effondré déjà 4 fois, et là on arrive sur le 5e collapse, il y a 5000 ans, je ne sais plus combien de milliers d'années, certains d'entre nous ont collapsé dans nos sociétés, alors je sais plus quelle tribu. Pourquoi? Elle a dit, because we were assholes, on était des trous du cul. Et on a fait des pyramides, certains d'entre nous ont fait des pyramides, et là, dès qu'il y a une pyramide, elle dit, red flag, drapeau rouge, c'est que ça va collapser. Dès qu'il y a une stratification sociale, une hiérarchie, en fait, les élites, ça a été montré par Jared Diamond, par plein de gens, ils collapsent le monde parce qu'ils exploitent les classes les plus pauvres et ils exploitent la nature. Et c'est l'effondrement des pauvres et de la nature qui provoque les effondrements. Et donc on a appris, au fil des effondrements, à apprendre à vivre avec la Terre. Et on a appris à justement pas trop augmenter la puissance technique, à rester en phase avec le vivant et à grandir spirituellement. Sans décalage prométhéen, c'est-à-dire sans faire n'importe quoi, avec la responsabilité, l'autonomie, et des tailles de société, là on revient à Illich et compagnie, qui sont ok avec le vivant en phase. Et on a mis 4 effondrements à apprendre ça. Non, 3. Jusqu'au 4e, c'est les Blancs sont arrivés, ils ont tout massacré. Donc là on s'est vraiment effondré et on a une culture du collapse, on a une expérience là-dedans. D'ailleurs, ils ont développé, il y a un livre qui n'est pas traduit en français qui s'appelle Radical Hope, Espoir radical, des anthropologues qui ont étudié, ça c'est génial, un peu difficile, mais. Ils ont étudié une société qui allait se faire massacrer, où les sages, les vieux, les chamans et tout, ils savaient qu'ils allaient tous mourir. Et ils ont cultivé l'espoir, malgré ça. Et ça montre bien que la nature humaine là, de Hobbes et tout, c'est juste notre apprentissage. Quand la société disparaît, qu'est-ce qui reste au fond? Est-ce que c'est juste du chacun pour soi? Non, pour eux, même quand la société disparaît, il reste de l'espoir, de l'altruisme, de la cohésion. Donc c'est vraiment hyper puissant. Enfin, ça, je parle un petit peu en... Non, c'est toujours dont tu es. Et donc, elle dit, là, on arrive à un énorme collapse, le 5e. Vous n'êtes pas du tout prêts. Et vous, les Blancs, vous allez tomber de très, très haut parce que vous avez fait des énormes pyramides sociales et ça va faire très, très mal. Voilà. Donc...
On se prépare, quoi. En même temps, on était prévu. Mais il y a des aspects hyper positifs.
Non, mais ça, c'est très positif. Moi, ça m'a donné grave. Ouais. Non, mais d'apprendre de. Ouais, déjà, on va traverser des tempêtes. Donc, c'était ça le livre, c'est apprendre à apprivoiser nos suricates pour traverser les tempêtes. Si on n'est pas prêt à entendre ce message, et on passe tout de suite dans le bleu dès qu'il y a un livre de Collapso, mais on est juste mort, quoi. Bah non, mais c'est arrivé.
En fait, le livre est assez drôle. Notamment, j'ai beaucoup ri vous avez, avec Nathan, cité Albrecht qui classe les émotions psychothératiques. Et il y a tout un tas de termes pour désigner les différents degrés d'anxiété ou d'angoisse. Donc là aussi, c'est très bien expliqué la distinction entre société ou angoisse. Il y a plein de données concrètes, d'exemples et d'outils pour travailler sur la base du métaphore du suricate et sur comment le réinvestir dans le collectif. Sur ce que vous appelez, enfin, c'est peut-être pas vous qui l'avez théorisé, j'avoue que ça je ne sais pas, sur le fait que ce soit nécessaire, apprivoiser le suricate n'est nécessaire mais pas suffisant, et qu'il faut y ajouter du collectif et de l'universel. Mmh. Si tu peux finir sur cette note collective et positive, tribute tous ceux qui sont en train de manifester pour la 69.
Ah ouais, carrément. Carrément, ils doivent être dans le rouge. Typiquement, aller manifester, c'est être dans le rouge. Parce qu'on veut changer le monde. Et la seule manière de le faire, justement, c'est pas individuellement, c'est collectivement. Alors je dis le vert parce qu'en fait, la clé, c'est de refaire du lien et du collectif. Et le suricate, il kiffe le collectif. C'est vraiment le gros kiff de nos suricates humains. On est une espèce ultra sociale et on a été façonné par l'évolution pour être en groupe et en collectif. Si on est tout seul, nos suricates, ils hurlent. Ils ont trop peur. Et dans l'anonymat des villes, et ouais, comme tu disais, le capitalisme, en fait, et le patriarcat et tous les systèmes de domination, c'est des attaques massives sur les liens. Ça nous détruit tous les liens, ça nous rend seuls, ça nous rend individuels. Je fais une petite digression. Pourquoi ça nous coupe des liens? Parce qu'en fait, un système de domination, que ce soit un système autoritaire avec une police, la Gestapo, la Stasi, etc., ils nous font hyper peur et ils nous mettent dans un monde de compétition où si on s'ouvre dans notre vulnérabilité, eh ben on se fait massacrer. Donc créer un monde de compétition ou de peur nous renferme sur nous-mêmes, on met des petits picots de méfiance et on se méfie de tout, sinon on meurt. Et du coup, on ne peut pas avoir des liens authentiques. Or, c'est les liens authentiques, c'est quand on peut exprimer sa vulnérabilité, qu'on peut faire du vrai lien vert. Et suricate, il kiffe le vrai lien, la relation authentique. Si vous avez une relation authentique avec quelqu'un, vous le saurez, on peut se dire tout, on a une confiance absolue, on peut dire nos faiblesses, etc. C'est vrai que c'est les systèmes de domination, ils nous isolent. Et du coup, ça fait flipper nos suricates. On devient fragile parce qu'on a tout le temps peur. Et si on devient trop fragile, on passe dans le bleu. Un système avec une autoritaire, une fasciste par exemple, va tuer tous les individus rebelles qui sont dans le rouge et qui veulent combattre ou fuir. Et ils essayent de faire peur aux gens avec une police violente pour passer tout le monde en bleu. Comme ça, ils dominent les gens. Et cette caste, cette élite, du coup, garde le pouvoir. C'est comme ça qu'ils font. Donc aussi, apprivoiser son suricate, c'est pas tomber dans ces pièges-là et arriver à bien voter ou à bien combattre, s'entraider. Et alors le suricate, on revient à la 69, ce qu'il kiffe, c'est le lien, donc le collectif, le sens. Combattre à la 69, c'est un monde plus juste, un monde avec des terres arables pour nourrir les gens, enfin voilà, tout. Ça donne du sens à notre jeunesse, à notre génération, et de la joie. Et quand on a un vert puissant, lien, sens, joie, cultive le vert puissant, on peut passer à l'action puissante, un rouge puissant. Et c'est là, je reviens à ta question, dev perso, dev collectif, on doit faire évidemment du dev perso, parce que comme moi, aller voir ses traumas, moi je pense que tout le monde doit aller voir ses traumas, c'est le boulot, le principal boulot qu'on a à faire sur Terre, c'est réparer les casseroles des générations précédentes. On a hérité de plein de traumas, déjà deux guerres mondiales, hein. Bim bim, la colonisation, machin, nos ancêtres, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais voilà, ils ont des casseroles. Et je note ce que je vais dire, je fais une petite digression. Il y a des études qui ont été faites sur les souris. Quand vous traumatisez une génération de souris, ça rentre dans l'ADN, méthylation de l'ADN, et les souris traumatisées font des bébés souris qui ont beaucoup plus de tendance à l'anxiété et au trauma. Donc le trauma passe par la génétique. Si vous traumatisez une génération, ça dure deux générations, le trauma, dans l'ADN. Si vous traumatisez deux générations de souris, ça dure 7 générations dans l'ADN. Donc là, on s'est tapé deux guerres mondiales et avant les guerres de religion. Je pense qu'on en a pour moins 40 générations de trauma. Donc notre boulot, c'est vraiment de se réassocier. On a besoin de dev perso, c'est-à-dire d'aller comprendre c'est quoi mes casseroles et comment je peux re-affiner mon suricate pour avoir moins peur et pour avoir plus peur et pour éviter le bleu. Donc notre job, c'est cultiver le vert, densifier le vert tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour revenir dans le vert tout le temps. C'est pas un sprint là, c'est un marathon. C'est pas juste l'A69, c'est que derrière il y aura plein de A69, de tempêtes, d'ouragans, de machins, de luttes et tout, pour pouvoir avoir un beau rouge et éviter le bleu. Et un beau rouge et un beau vert, c'est ce qu'on appelle avec Nathan la courbe orange. Je vais la faire comme ça. Ici là, c'est alterner entre le rouge et le vert, c'est ça la vie. Si on repousse le seuil du bleu et qu'on a des belles courbes, on augmente notre fenêtre de liberté, d'action. C'est ça l'action. C'est pas juste. La vie, c'est pas rester dans le vert. Ça, c'est en général les gens qui vous disent ça, ils sont dans le bleu en fait. Ils savent pas, mais les grands méditants là qui font, je vais dans les montagnes et en fait, j'ai juste peur de la vie. On peut être vraiment figé en fait quand on est méditant tout seul. Petite digression gratuite. Mais donc. La courbe orange se mélange de vert et de rouge. C'est typiquement ce que fait, par exemple, un enfant qui demande des chatouilles. Il a un lien très fort avec le parent. C'est du vert puissant, totale confiance. Chatouille-moi. Non, oui, oui, oui. Et donc, il va dans un rouge extrême, mais il peut aller dans le rouge extrême et toucher ses limites et grandir. C'est comme ça qu'un enfant grandit. C'est en se confrontant à la peur parce qu'il a un vert puissant. Sans vert puissant et sans lien fort avec le papa ou la maman, il irait pas. Donc il resterait petit, avec une toute petite vie, une toute petite fenêtre de liberté. Et les gens, à la fin de leur vie, qui ne s'entraînent pas à avoir peur, entre guillemets, qui n'ont pas de vert puissant, du coup ils n'ont pas de capacité à aller dans le rouge, ils finissent leur vie comme ça, et le moindre petit coup de vent, ils tombent, ils sont hyper fragiles. Et notre technostructure, le technococon, comme dit Alain Damasio, qui nous maintient dans une sorte d'univers paisible où il se passe rien. Il y a tout le temps la clim, il y a tout le temps la voiture, il y a tout le temps de la bouffe, il n'y a aucun problème. Et bien notre suricate, il est plus habitué, notre corps est plus habitué à écouter le suricate, notre esprit flippe au moindre hurlement du suricate, et du coup on perd les pédales et on passe tout de suite dans le bleu. Donc le but de la vie, c'est pas de pas avoir peur, c'est de s'entraîner à avoir peur tout le temps, mais une bonne peur. C'est-à-dire, c'est comme les chasseurs, t'as les bonnes et les mauvaises peurs. Mais en fait, c'est ça, c'est augmenter notre fenêtre de liberté. Pour ça, il faut s'entraîner. Et du coup, on en vient à la conclusion, pour les catastrophes, il faut s'entraîner aux catastrophes, aux pénuries, aux entraînements, aux exercices d'incendie. Vous en avez fait des exercices d'incendie? Il faut s'entraîner à avoir peur. Et en fait, quand on le fait ensemble, c'est un gros kiff. Moi, en ce moment, je suis sur un projet de recherche sur l'entraide en temps de catastrophe. Il y a une vraie joie de la catastrophe. Si vous avez vécu une catastrophe qui vous a sidéré, un attentat, un ouragan, une tempête, une inondation, des méga-feux, etc. En fait, les gens, les témoignages des rescapés, c'est qu'il y avait une joie. Les soldats sur le front, ils ont une telle fraternité. C'est du méga rouge, hein. Ils vivent la mort avec du bleu aussi sur le front quand ils sont sous le feu et sous les balles. Pourquoi? Parce qu'ils ont un vert extrêmement puissant avec leur frère d'armes. Et c'est vraiment frère, c'est des relations tellement puissantes que c'est même plus puissant que les relations familiales. Ils pourraient se sacrifier, et c'est ça le seul motif pour aller au front et se prendre des balles, c'est pour pas laisser tomber leur frère. Donc l'armée, il faut leur reconnaître ça, une énorme capacité à créer du vert puissant, une fraternité, pour pouvoir aller dans le rouge puissant. Et cette joie de la catastrophe, elle reste à vie. Ça marque les rescapés et les soldats, quand ils reviennent dans la vie civile, tout est fade, parce qu'ils ont goûté à un vert immensément puissant et dense. Et du coup, la joie de la catastrophe, je le trouve, on ne la goûte pas assez. Donc il faudrait s'entraîner et jouer catastrophe, pour, comme les guillis, les chatouilles, pour pouvoir... entraîner nos suricates, quoi. Qu'on puisse aimer nos suricates. Ils veulent juste nous sauver la vie, ils veulent juste qu'on survive. Donc si on passe notre temps à vouloir les inhiber, les combattre ou les ignorer, nos suricates, on va juste passer une très mauvaise vie et on va réduire notre fenêtre de liberté.
Après la fiction comme la fiction comme le cinéma, la musique, la littérature, parce qu'on est quand même dans une librairie, c'est un bon entraînement pour les sur les quatre. Parce que vos ados, ils lisent des kilomètres de pages de dystopie.
Ouais. Va... Mais complètement. Mais ça, il y a eu des études là-dessus.
On continue à vendre du manga, quoi. Ça.
Et des livres d'horreur, des policiers et tout. Non, il y a eu plein d'études là-dessus. Enfin, plein, je sais pas, mais il y a eu des études qui montrent que la littérature augmente notre empathie. Notre capacité d'empathie, d'imagination. Donc, c'est grandir spirituellement, évidemment.
Mais il manque le collectif.
Alors, le collectif... Ah oui, c'est ça, j'ai pas dit. Il y a un spécialiste des traumas complexes qui s'appelle Éric Bardot, qu'on a interviewé pour le livre. Il est à Nantes. Et lui, il dit... Il a eu cette, ça nous a débloqué le chapitre 4, vous verrez. Il dit, en fait, face aux méga... Alors, je lui dis, face aux méga peurs, aux méga menaces qu'il faut prendre au sérieux. Risque systémique, bon, la mort en général, mais l'effondrement, l'extinction de l'espèce humaine, tout ça, on ne peut pas le nier. Donc, c'est des méga menaces. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir du méga vert, pour pas que nos suricates passent dans le bleu direct? C'est quoi le méga vert? Il m'a dit, il n'y a pas 36 choses. Le suricate, il doit avoir, enfin nous en fait, le développement humain, ça s'inscrit sur 3 axes. Et c'est comme un tabouret, s'il manque un pied, ça tombe par terre. Le premier, c'est l'axe singulier. Ce que je vous disais, aller voir nos traumas. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Le dev perso, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Si vous avez des collectifs directs, alors deuxième axe, c'est le collectif. Mais si vous faites des collectifs directs sans avoir fait de dev perso, vous aurez des collectifs de merde, avec des gens qui vous pourrissent la vie, qui projettent leurs ombres sur les autres, qui prennent le pouvoir sans savoir. Enfin, c'est vraiment l'enfer. Donc c'est indécessaire, le dev perso. Moi, j'ai du mal à dire ça dans les collectifs, les milieux activistes, où c'est toujours le collectif, et jamais l'individu. Moi, j'essaie toujours de faire les deux. Dans ce livre, on montre que c'est les deux, quoi. Alors, et c'est même les trois, parce qu'il y a un troisième pied. Mais avant, je termine sur le collectif. L'axe collectif, c'est le plus important. Parce que le suricate, il kiffe à mort le collectif. Et le collectif, c'est... des cercles concentriques d'appartenance. On appartient à une ville, une famille, un pays, l'espèce humaine, et on peut agrandir nos cercles d'appartenance, c'est-à-dire de vers. On se sent bien dans un cercle d'appartenance parce qu'il y a du sens et des liens. En fait, dans nos communautés, le suricate, il adore les communautés. Parce qu'une communauté, si on y réfléchit, c'est du lien puissant, c'est du sens, c'est un récit commun. Et c'est de la joie, des rituels, de la fête, des cérémonies, etc. On a besoin de ça. Des communautés. Alors nous, en France, on n'a que dalle, quoi. En France, à part l'individu un peu paumé qui consomme et qui vote de temps en temps, et l'État tout puissant qui a pris le monopole du lien social, il y a quoi? Si, le tissu associatif. En France, c'est exceptionnel. Mais il n'y a que ça. Enfin, et c'est assez pauvre, c'est un peu technocratique, dans le sens où, y a, pour moi, il n'y a pas assez de liens verts puissants. C'est pas forcément dans les assos qu'on a des relations hyper authentiques avec des gens. Enfin, c'est pas notre famille, quoi. Enfin, peut-être qu'il y a des assos comme ça, mais c'est pas le sens communauté que j'entends et dans beaucoup de pays anglo-saxons, community, c'est très fort. Et pour traverser les crises, les anglo-saxons, là, ils sont à fond sur les community. En Australie, là, les secours ont été dépassés par les méga-feux, les méga-inondations. Et ils ont dit, on a besoin de vous, parce qu'on sera pas assez puissant. On sera pas là. Donc développez vos communities. Et là, ils font du community building pour justement avoir un verre puissant et passer à l'action et s'auto-organiser sans les secours. En France, il n'y a pas du tout cette culture-là. On attend tout de l'État qui dit « Oui, je sais tout, tout est prévu, mais en fait, rien n'est prévu. » Enfin, presque rien. Et donc, il y a une sorte de... On fait rien parce qu'on attend, mais eux, ils font rien parce que en fait, ils n'ont pas prévu. Donc, c'est hyper dangereux, cette verticalité. Bon, là, je dévie. Troisième, donc le collectif. Ah oui, le collectif... L'axe horizontal, donc l'axe singulier, perso, l'axe horizontal, il peut s'étendre au non-humain. C'est hyper important. Notre communauté, les liens avec la nature, enfin avec la nature, avec les plantes et les animaux. Si on a des beaux liens avec les non-humains, eh ben, ça nous rend résilients parce qu'on se sent moins seul. Et c'est ce que je vous disais avec les Amérindiens, apprendre à vivre avec la Terre. Ça fait un bien fou, on se sent communauté avec la Terre. Et le troisième axe, c'est l'axe vertical. Ça, c'était nouveau pour nous. Vertical, vertical. Alors, ça nous a fait... C'est quoi spirituel? C'est Dieu? C'est machin? C'est une sorte d'axe plus que collectif. Et c'est Boris Cyrulnik qui utilise la métaphore de l'étoile polaire. En fait, c'est de se baser sur des valeurs universelles que aucun groupe peut s'accaparer. Et là, il dit l'étoile polaire, elle est là à tout le monde et personne ne peut se l'accaparer. C'est pas on se réunit sur des valeurs, genre, je sais pas moi, la France. La France, ça exclut les non-français et on peut se l'accaparer et puis. Et du coup, ça referme. Et c'est des valeurs universelles. Voilà. Après, il faut s'entendre là-dessus. Mais... Et donc, l'axe universel, si vous manque l'un des trois, ça ne marche pas. Si vous avez juste l'individuel et le collectif, vous allez tomber sur des logiques de groupe et de clan et d'exclusion. Il n'y a pas l'axe universel. Si vous avez juste l'individu et l'universel, sans le collectif, vous aurez les moines au fin fond de la vallée qui passent leur vie à méditer. Et du coup il n'y a pas de collectif, donc déjà le suricate il n'est pas ouf et puis en fait on ne fera rien. Et s'il n'y a pas l'individuel, on tombe dans les logiques fascistes, enfin où disons où le collectif prend le pas sur l'individu, on perd la liberté et puis c'est compliqué aussi politiquement. Donc il faut les trois. Et dans notre société, moi je trouve qu'on cultive pas assez le vertical universel. Et que l'individuel, enfin le singulier, est repris par le capitalisme en mode dev perso. Et ça, c'est compliqué. Et le collectif, bon voilà, c'est assez pauvre quand même.
Donc il y a du boulot quoi.
Il y a du boulot. Ouais. C'est pas grave.
Merci à tous.
Merci beaucoup. Merci.